Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi met à l'honneur les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi, plus rarement, les chats qui ont fait l'histoire, en espérant que Stéphane Bern imite aussi bien le miaulement du chat que le cri du loup. Bonjour Stéphane.
Miaou.
Oh Mathieu. Oui, c'est dingue. Ah, si on ferme les yeux, j'ai l'impression de présenter cette émission avec un chat.
Oui, je vous remercie Mathieu. Je vois bien que vous me caressez dans le sens du poil. Ça tombe bien, c'est le point commun de nos trois personnages cet après-midi. Eux aussi étaient toujours accompagnés d'un chat et même de plusieurs. Jamais sans ces chats, c'est ce qu'on peut dire du cardinal de Richelieu, l'implacable ministre du roi Louis XIII, qui en a eu de nombreux. Et il a été plus doux avec eux qu'avec tous ceux qui n'ont pas adhéré à ses idées. Vous verrez. Puis je vous raconte André Malraux, l'écrivain de La Condition Humaine, qui aimait tellement les chats qu'il a confié que leur présence l'a aidé dans son travail. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une femme qui aimait encore plus les chats qu'André Malraux.
Bah, elle aimait peut-être aussi André Malraux, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, elle adore les chats. Elle s'appelle Linnea Latanzio. Elle a décidé de lui consacrer sa vie. Et on peut dire, Stéphane, qu'elle a réalisé deux de vos rêves les plus chers, vivre dans un mobilhome et avec plus de 1000 chats. Je ne sais pas comment elle fait pour les litières, mais en fait, je crois que j'ai pas très envie de savoir.
Alors, eux, ils ont de la chance parce que ça fait quelques années qu'ils sont propres. Ce sont nos chroniqueurs. Avant que ça ne se dégrade. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et là, je vous entraîne dans l'intimité d'un révolutionnaire, figurez-vous. Un révolutionnaire doit-il sacrifier toute sa vie à la révolution? Pas forcément. Prenez Che Guevara. C'était un père de famille nombreuse, un vrai patriarche. Il s'est marié 3 fois. Il a eu 6 enfants de ses 3 femmes qui jamais, au grand jamais, n'auraient pu vivre sans leur Che.
C'est comme un chat, finalement.
Oui, c'est
vous ne pouvez pas vivre sans.
Ah, c'est pour ça que vous avez fait le Che?
Mais bien sûr.
Che, chat.
Oui,
c'est
pas le droit d'aller sur le terrain,
c'est
des amis.
Et puis alors, il y a...
C'est subtil.
Le cha-cha-cha.
Le cha-cha-cha, on va faire le cha-cha-cha. Voilà. Et puis, on va parler d'Iran, avec le chat d'Iran. Alors, avec David Cassé-Lopez, on remonte aux origines.
Oui, d'un animal très, très supérieur au chat et qu'on appelle le chien. Et je vais vous parler de depuis quand ça existe, les chiens.
Voilà. Mais c'est pour faire les inventions. Les chiens n'ont pas été inventés.
En quelque sorte.
Si, 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 si.
Bien sûr, c'est une invention humaine.
On les a domestiqués il y a des milliers d'années.
Voilà, ah, c'est ça.
C'est pas une invention dans le sens où on inventait le stylo, vous voyez, mais il y a un petit voisinage. Ça vient de l'homme, en tout cas. Voilà.
Il y a une influence de l'homme dans la création du chien. Bah, déjà, j'apprends quelque chose dès le sommaire de cette émission. Olivier Poul, c'est là.
Oui, ce garçon est au Vauparts. Alors, on va parler avec vous.
Je vous proposerai bien une recette de chat. Je sais pas si vous en avez déjà goûté.
Mais est-ce que c'est
du mou de chat? J'ai déjà goûté.
Du mou de chat?
Oui. Ah, mais ça, c'est du poumon en fait.
Mais non. C'est du poumon qu'on donne au chat. Oui, c'est pas du chat.
Non,
oui.
C'est très proche parce que dans Paris, il y avait un restaurant pas loin du théâtre de l'Odéon qui servait du chat et ça s'appelait la gigolette. On a fait des fouilles dans le puits. On a trouvé 800 têtes de chat qui servaient de la gigolette. C'était pas du tout.
Ils faisaient passer ça.
Ça doit être très proche.
Bon, moi, je vais faire plus simple. On va faire les œufs et notamment l'omelette. D'où vient l'omelette?
Vous n'avez trouvé aucun rapport avec les chats?
Non.
T'es venu comme ça un peu à l'arrache?
Non, mais c'est assez passionnant.
Mais c'est passionnant,
c'est assez passionnant en fait.
Qui de l'œuf ou de la poule a commencé?
Enfin, les amis, si les chats ont 7 vies, je rappelle aux concurrents du quiz Burn to be Alive que les humains, eux, n'en ont qu'une. Mieux vaut essayer de ne pas passer à se couvrir de ridicule. Notre face-à-face Burn Kaltenbach, ça sera aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage de l'histoire qui n'aurait rien été sans ses chats. Il n'était pas homme à se laisser facilement approcher. Ceux qui ont réussi, ce sont donc ses chats. Selon la légende, il ne pouvait s'en passer. Stéphane Bern nous raconte avec une voix claire et sans chat dans la gorge, le cardinal Richelieu, jamais sans ses chats.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Oui Mathieu. Son éminence, le cardinal de Richelieu, l'implacable ministre du roi Louis XIII, que l'on prétendait sans pitié, fondait pourtant de tendresse devant ses chats. Il en a eu au moins 14. Des persans, pour la plupart, choyés et dorlotés dans une pièce du Louvre, aménagée tout spécialement pour eux. Ils s'appelaient Perruque, Mimi Piaillon, Gazette, Ruby sur l'ongle, Serpollet et même Lucifer. C'est en tout cas ce qu'on raconte. Il faut avouer que c'est un choix de prénom audacieux pour un homme d'église. Imaginez un instant le puissant cardinal, tout vêtu de rouge, susurrer des mots tendres à l'oreille de Lucifer en caressant son pelage sombre. Pas étonnant que ses ennemis lui aient forgé une terrible réputation. Allez, revenons aux origines. Armand Jean du Plessis, dit Richelieu, est né en 1585 à Paris. Il est issu d'une famille noble, fidèle au roi, mais ruinée. Armand Jean se destine à une carrière d'officier dans l'armée. À 16 ans, malgré une santé fragile, il excelle dans le maniement des armes. Mais tout bascule lorsque son grand frère, Alphonse du Plessis, refuse de devenir évêque de Luçon comme leur mère en avait décidé. Pour que la famille ne perde pas le contrôle de l'évêché et les revenus qui lui sont liés, Richelieu doit remplacer son frère en catastrophe. Le voilà donc qui entame des études de théologie avant de devenir évêque. Il a 22-23 ans et plus qu'un homme d'église, il a l'air d'un jeune courtisan avec ses yeux gris pénétrants et sa fine moustache. Très ambitieux, Richelieu n'envisage pas de passer sa vie à Luçon, qu'il appelle d'ailleurs la ville la plus crottée de France, et fréquente la cour du jeune roi Louis XIII à Paris. En 1614, à l'occasion des états généraux, Richelieu, qui représente le clergé, prononce un discours qu'il termine par une ode à la mère du roi, Marie de Médicis, qui tient les rênes du pouvoir depuis la mort de son époux Henri IV. « Heureux le roi à qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. » La reine apprécie ce Richelieu, qui s'est si joliment troussé un compliment. L'année d'après, lorsque le roi Louis XIII se marie, ça ne manque pas. Richelieu est nommé aumônier de sa jeune épouse, Anne d'Autriche. C'est une belle promotion. Mais l'ambitieux ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, la reine le fait entrer au conseil et il reçoit une commission de secrétaire d'État en charge des affaires étrangères et de la guerre. Mais cet état de grâce ne dure pas. Le roi Louis XIII, timide et jusqu'à présent inexistant, se rebelle contre sa mère et ses proches conseillers. Le 24 avril 1617, Louis XIII annonce que Richelieu est destitué. Évidemment, ce dernier se précipite au Louvre où réside le souverain. Mais dès qu'il l'aperçoit, Louis XIII lui crie furieux « Luçon !» Je vous rappelle que Richelieu est alors évêque de Luçon. « Me voilà hors de votre tyrannie !» Et lorsque Richelieu essaye de plaider sa cause, le roi le coupe. « Allez, allez, ôtez-vous d'ici !» Richelieu est assigné à résidence dans son diocèse, puis à Avignon où il déprime sérieusement. La reine-mère, Marie de Médicis, de son côté, ne décolère pas d'avoir été écartée du pouvoir et réunit des troupes pour affronter son propre fils. Sautant sur l'occasion de revenir sur le devant de la scène, Richelieu, en excellent diplomate, parvient à les réconcilier. La reine-mère reconnaît enfin le pouvoir de son fils. Richelieu prouve là son habileté politique et, surtout, il gagne la confiance du roi qui le fait nommer cardinal en 1622. 2 ans plus tard, il le fait entrer dans son conseil, que Richelieu dirige même dès le 13 août 1624. Pour le cardinal, 18 années de pouvoir commencent. Pour asseoir son autorité et celle du roi, Richelieu ne recule devant aucun sacrifice et n'hésite pas, par exemple, à faire raser les châteaux de la noblesse rebelle. Dans les années 1620, la ville protestante de La Rochelle se soulève et proclame son indépendance. Hors de question de laisser passer, un siège est mis en place. Et le cardinal lui-même dirige les opérations en faisant creuser un fossé autour de la ville et construire une digue pour empêcher qu'elle soit ravitaillée par bateau. Au bout d'un an de siège, La Rochelle se rend enfin et reconnaît l'autorité du roi. Mais à quel prix ? Les habitants ont connu une terrible famine qui a fait des milliers de morts. Unanimement détesté par la noblesse et le peuple, sans épouse ni enfant, heureusement que le cardinal peut compter sur l'amour de ses chats qui le suivent partout et dorment avec lui, dans son lit. Des domestiques seraient même chargés d'en prendre soin et de les nourrir au blanc de poulet. Et si un chat tombe malade, on dit que c'est le propre médecin de Richelieu qui est chargé de le remettre sur pattes. Les chats de Richelieu occupent une telle place dans sa vie que chaque fois qu'il reçoit un ambassadeur ou s'entretient avec l'un de ses ministres, un chat se tient près de lui ou sur ses genoux. Ses ennemis auraient même envisagé d'utiliser son chat préféré, Soumise, une angora blanche, pour l'assassiner. Comment ? En payant un domestique pour qu'il l'enduise de poison et qu'elle contamine son maître. Cette histoire relève certainement de la légende, mais toujours est-il qu'un certain nombre de complots sont déjoués grâce aux espions du cardinal qui travaillent en secret un peu partout en Europe. L'une de ses principales préoccupations est d'accroître la puissance de la France en mettant un terme à la domination de l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique. Pour y parvenir, le cardinal envisage de s'allier à des princes protestants allemands. Mais la reine-mère, Marie de Médicis, qui est très catholique, s'y oppose. Elle demande à son fils Louis XIII le renvoi de Richelieu. Marie de Médicis est en entretien avec le roi dans une pièce close. Selon la légende, le cardinal, apprenant ce qui se passe, use de son influence sur une domestique pour entrer dans la pièce. On imagine la surprise de la reine-mère lorsqu'il apparaît sur le pas de la porte. Dans son ouvrage sur Richelieu, l'historien Max Gallo nous décrit la scène. Richelieu s'incline, sourit, et d'une voix humble mais chargée d'ironie leur dit
« Je gagerai que leur majesté parle de moi. »
Tiens, Richelieu a la voix de quelqu'un que je connais. À sa question, oui, répond en cœur Marie de Médicis avant de l'accabler de reproches. Richelieu, faussement humble, s'agenouille devant le roi et la reine-mère dont il baise le bas de la robe. Louis XIII tourne les talons et se retire au château de Versailles, qui n'est alors qu'un modeste relais de chasse. Les courtisans croient en la victoire de la reine-mère et s'inclinent devant elle. Là-dessus, le roi fait appeler Richelieu à Versailles et, contre toute attente, lui renouvelle sa confiance. « Vous êtes le plus fidèle et le plus affectionné serviteur qui fut au monde. Je vous commande absolument de rester et de continuer de tenir le timon des affaires parce que telle est mon irrévocable décision. » Un courtisan prononce alors une phrase passée à la postérité. C'est la journée des dupes. Nous ne savons évidemment pas si tout s'est passé tel que je le décris. Toujours est-il que Marie de Médicis, la rage au cœur, est exilée. Elle n'est pas la seule à avoir une dent contre le cardinal. Les nombreuses guerres menées pendant le règne de Louis XIII, notamment la guerre de 30 ans, coûtent très cher à la France. Le peuple doit payer de lourds impôts qui le plongent dans la misère. Certains se rebellent, mais Richelieu réprime leur colère dans le sang. Richelieu est un homme implacable, surtout avec lui-même. Le ministre travaille tout le temps et partout, même dans son lit, ne dormant que 4 ou 5 heures. Aussi, à même pas 60 ans, son corps est usé. Certains jours, il ne peut même pas s'asseoir et travaille allongé, ses châles levés contre lui. En 1642, le cardinal de Richelieu meurt, probablement de la tuberculose. Il est si détesté que le peuple allume des feux de joie pour célébrer l'événement. N'ayant pas d'héritier, Richelieu lègue sa fortune, qui est immense, à Louis XIII et à ses chats. Hélas pour eux, on dit qu'ils furent exécutés peu de temps après la disparition de leur maître.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du cardinal de Richelieu, nous sommes avec l'historien Arnaud Tessier. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bonjour Arnaud Tessier, vous êtes professeur à l'École normale supérieure. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au cardinal de Richelieu, et notamment Richelieu, l'aigle et la colombe, qui vient d'être réédité aux éditions Perrin. Dans votre livre, vous présentez Richelieu comme quelqu'un à la légende du tyran à la robe sanglante et en même temps quelqu'un chez qui on reconnaît un sens exacerbé de l'intérêt public. Pourquoi son image est-elle si trouble ?
Parce qu'il avait beaucoup d'ennemis, notamment beaucoup de pamphlétaires payés par l'Espagne et qui ont entretenu une légende qui a traversé les siècles et qui est une légende noire.
Votre livre est sous-titré « L'aigle et la colombe ». C'est quoi le lien avec Richelieu ?
C'est un passage de saint Augustin qu'il a cité dans son premier sermon quand il était tout jeune évêque à la Nativité. Les aigles, c'est ceux qui savent, ceux qui sont intelligents, c'est les élites, ceux qui sont érudits. Et les colombes, c'est le peuple, celui qui n'a pas eu la chance d'avoir une éducation. Et il disait, il faut toujours parler à la fois aux aigles et aux colombes, toujours savoir adapter son discours aux deux, ce qui est finalement une très grande leçon de politique.
Richelieu n'a pas été compris de tous, il a même été détesté par le peuple, je le disais, cela venait de toutes les guerres qui faisaient évidemment grimper les impôts. Mais pourquoi était-il aussi détesté de la noblesse, alors qu'il servait le même souverain ?
Parce que, sans doute, il a fait rouler quelques têtes, Louis XIII et lui, ont fait rouler quelques têtes de grands aristocrates qui défiaient le pouvoir royal ou qui complotaient avec le pouvoir royal. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était déjà en soi un signe qui était très très mal reçu par l'aristocratie. Et donc, il était détesté et puis jalousé, très jalousé aussi.
Et qui l'appréciait au final, à part ses chats? Et pourquoi?
Il y avait beaucoup de gens qui lui étaient dévoués, beaucoup de grands commis de l'État qui travaillaient avec lui et qui auraient donné sa vie pour lui. Et puis, il était souvent apprécié quand même à certains moments de sa vie parce que, par exemple, pendant les campagnes militaires, il faisait punir sévèrement les soldats qui commettaient des excès, ce qu'il appelait les gens de guerre. Il faisait réprimer très sévèrement ceux qui pillaient, qui violaient, qui martyrisaient un peu les populations pour vivre sur la bête, si j'ose dire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'était pas toujours impopulaire, pas toujours auprès de tous.
Alors Arnaud, loin de moi l'idée de décrédibiliser la parole de Stéphane Bern, mais cette idée d'une passion de Richelieu pour les chats, elle est, disons, discutée.
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu une légende. Alors, il avait sans doute des chats, parce que, comme disait dans les années 30 le grand intellectuel à Lévis, les hommes d'État comme Richelieu aiment les chats parce que ce sont des solitaires, ils aiment la réflexion, ils aiment réfléchir dans la solitude. Mais c'est vrai que c'est un peu une invention du 19e siècle, des peintres du 19e siècle et de toute la tradition romantique. Et Stéphane Bern en a parlé d'ailleurs de manière positive, mais il y a aussi des présentations picturales notamment de Richelieu avec ses chats qui sont négatives parce que le chat est réputé un animal quelquefois un peu sournois et cruel.
Mais justement, est-ce qu'à cette époque, le chat est déjà un animal de compagnie répandu ou pas du tout? C'est rare d'en avoir.
Il commence, il était peu populaire au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Au 17e siècle, il commence à être prisé tout simplement parce qu'il débarrasse les gens qui les possèdent des rats.
Oui,
qui,
bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Oui. Des rats et des souris, bien sûr.
Voilà, et des souris qui sont omniprésents, oui, dans les habitations de cette époque.
Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, là où vous avez raison, Arnaud Tessier, c'est qu'il y avait, enfin vous avez raison de toute façon, mais
de toute façon, vous avez toujours raison.
Particulièrement, oui, sur ce point, c'est que c'est un animal rusé, sournois, solitaire, et c'est l'image qu'on a du cardinal,
voilà,
aussi.
Exactement, ça correspond
c'est,
au tout point.
C'est un peu fourbe, voilà.
Oui, c'est ça, voilà. C'est la légende noire aussi. Ouais.
Alors, Richelieu avait la réputation d'être un grand ambitieux. Lorsqu'il loue des loges la mère du roi, est-ce que tout était, au fond, méticuleusement calculé pour qu'elle le propulse en politique? Est-ce que, depuis Luçon, il voulait absolument se faire un nom, ce garçon?
Alors c'est très compliqué parce que il semble que, il paraît même certain que Richelieu a eu une véritable vocation religieuse et ça se voit dans toute sa carrière. Il est resté un prêtre et sa grande obsession jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il faisait la guerre à l'Europe tout entière, c'était de réconcilier les catholiques et les protestants. Donc c'est quelqu'un de profondément religieux et il est ambitieux, oui, mais un peu ambitieux comme le sera plus tard le général de Gaulle, c'est-à-dire ambitieux avec une ambition qui est tournée vers quelque chose d'élevé, c'est-à-dire le service du roi, le service de l'État et encore une fois réconcilier les chrétiens en une seule église. Je crois que c'est une ambition qui n'est pas une ambition médiocre.
La confiance de Louis XIII, on peut dire que Richelieu l'a gagné très progressivement. C'était quoi la relation qu'ils entretenaient finalement, ces deux hommes?
Ah, elle était très complexe, Richelieu et Louis XIII. On ne peut pas dire que Louis XIII aimait Richelieu, mais Richelieu a cultivé avec lui une relation qui était une relation presque par moments de confesseur, car Louis XIII était très pieux, et peut-être par moments paternel. Il préparait Louis XIII à des scènes qui pouvaient se produire un jour. En plus, Richelieu était très théâtral, il avait un grand sens du théâtre, il écrivait des pièces de théâtre. Et la journée des dupes que vous avez racontée, par exemple, il avait prévu que ce genre de scène pouvait arriver, et d'une certaine manière, il avait préparé Louis XIII à ce genre de scénographie avec sa mère.
Arnaud Tessier, il y a un document très intéressant, d'ailleurs j'invite tout le monde à le lire, c'est le bréviaire qu'a écrit le cardinal de Richelieu, qui était au fond un texte très politique sur comment on doit diriger la politique de la France. Au fond, il avait quand même le sens de l'État, le sens du bien commun, notamment dans sa guerre contre l'Espagne, il avait des raisons, il visait plus loin que lui-même, non ?
Ah oui, il avait un sens très aigu de l'intérêt public. Et dans ce texte que vous citez, le testament politique, qui était publié après sa mort par des protestants d'ailleurs, dans le testament politique, il explique que l'intérêt public doit toujours l'emporter sur les intérêts privés, et il dit que le prince se damne, et ne se sauve pas, mais il se damne lorsqu'il refuse de prendre des décisions, lorsqu'il refuse de trancher, tout simplement parce qu'il n'est pas un simple individu, mais qu'il est en charge d'une collectivité humaine, et il n'a pas le droit d'être lâche, en somme.
Richelieu, c'est aussi un des grands fondateurs de la monarchie absolue, finalement. Pourquoi est-ce qu'il était si attaché à faire reconnaître l'autorité du roi ? Est-ce que c'est lié à sa carrière religieuse, au sens où faire reconnaître l'autorité du roi partout, c'est aussi faire reconnaître l'autorité de Dieu partout ?
Oui, pour lui, c'est la même chose. Le roi lui-même, Richelieu, est serviteur de Dieu sur terre. Mais d'une certaine manière, les deux choses se confondent. Peut-être n'était-il pas partisan d'une monarchie aussi absolue que celle que Louis XIV établira, puisque Louis XIV se passera, après la mort de Mazarin, d'homme comme Richelieu, et voudra gouverner seul. Mais en tout cas, il avait cette idée que oui, servir Dieu, c'était d'abord servir l'État, servir l'unité du royaume, et servir le roi, c'était un même combat, un même destin.
Et ce qui est assez étonnant, et on l'oublie un petit peu, c'est que la France a été souvent dirigée par des hommes d'église, Richelieu, Mazarin, le cardinal de Bernice, l'abbé Dubois. Qu'est-ce que ça raconte de Richelieu, qui l'exercice du pouvoir par des hommes d'église?
Oui, c'était assez fréquent, parce que l'Église était très puissante, c'était un des trois ordres du royaume, et puis il y avait toutes les relations avec le pape à Rome qui étaient très importantes. Il y avait une rivalité au sein de la chrétienté entre l'Espagne, entre les Habsbourg et la monarchie française. Il y avait vraiment cela. Mais Richelieu est un peu différent des autres que vous avez cités, je crois, parce que il me semble qu'en plus c'était authentiquement un homme de foi, et qu'on ne retrouve pas chez les autres, notamment chez Mazarin, malgré son génie, cette double personnalité qui est celle d'être un grand homme d'État, un gouvernement, un homme de gouvernement extraordinaire, mais aussi un religieux, un homme de piété. C'est quelque chose qui est à peu près unique, à mon avis, dans l'histoire de France.
Mais dans votre livre, vous écrivez que Richelieu a promu, installé, presque théorisé une conception de l'État et de l'action politique qui a marqué les siècles suivants et dont nous ressentons encore l'influence ou les effets. Au fond, en 2021, que reste-t-il de Richelieu chez nous ?
Ce qui fascine encore beaucoup de gens chez lui, c'est d'abord le sens de l'autorité, et puis cette idée de l'intérêt général, ce qui en période de crise, d'épidémie, n'est pas quelque chose d'anodin. Cette idée qu'il y a un moment où la société doit tendre vers un seul objectif, qui est le salut collectif, et que l'intérêt public, l'intérêt de tous, doit l'emporter sur l'intérêt de quelques-uns. Donc c'est quelque chose qui est très parlant pour nous, peut-être pas suffisamment pour tous nos hommes politiques, mais qui est très parlant pour nous quand même.
Et puis on a l'Académie française aussi, non, malgré tout. C'est lui qui a fondé l'Académie française.
Oui,
donc on lui doit beaucoup à ce cher Richelieu. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Tessier. Je rappelle le titre de votre livre, Richelieu, l'aigle et la colombe, revu et réédité aux éditions Perrin. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.
Merci.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires toujours passionnantes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, toujours, siempre, puisque vous nous racontez Clémentine Che Guevara et ses femmes.
Che Guevara.
Oui, parce que les femmes, voyez-vous, ont joué un très grand rôle dans la révolution cubaine. Alors que Cuba est un pays à la culture machiste fortement enracinée. Hein. Parce que les femmes, dans la révolution, font tous les métiers. À la fois, elles combattent, elles sont institutrices, travailleuses sociales. Elles font les uniformes, hein, parce que qu'est-ce qui vous fait les uniformes dans la jungle? Elles font la cuisine, parce qu'elles sont capables, non pas que les hommes soient pas grands cuisiniers, mais elles sont capables d'améliorer l'ordinaire, qui dans la jungle ou la sierra n'est pas terrible. Et elles sont aussi beaucoup, dans la révolution cubaine, beaucoup sollicitées comme messagères parce qu'elles sont moins contrôlées que les hommes. Mmh. Et elles cachaient des munitions dans des gaines, des petits stocks de munitions comme ça. Alors Che Guevara en a croisé beaucoup et il les aimait. Il a pu dire, il ne serait pas un homme s'il n'aimait pas les femmes. Mais il ne serait pas un révolutionnaire si par amour des femmes, je cessais d'accomplir un seul de mes devoirs, y compris mes devoirs conjugaux.
C'est mon accent espagnol. C'est le général Tapioca dans Tintin chez les Picaros.
Exactement. Et pour moi, Che Guevara, c'est un peu ça, en moins rigolo. Alors, il y a eu beaucoup de femmes dans la révolution cubaine et beaucoup de femmes qui appartenaient au M26, le mouvement du 26 juillet, appelé ainsi en mémoire de la première tentative avortée de renversement du régime de Batista. Donc, il y a d'un côté les camarades, bien sûr. Dans les camarades, la fameuse Tania, c'était une fille de communiste qui avait fui l'Allemagne nazie, et Che Guevara la rencontre en RDA en 60, et il la charge de créer un réseau clandestin en Bolivie en 63. Il y a la révolutionnaire cubaine chez qui il rencontre Fidel Castro en juillet 55, donc encore une femme. Pour progresser sur la culture des paysans de la Sierra, eh bien, il y a la petite Zoila Rodriguez, une jeune paysanne de 18 ans, donc ils tombent très amoureux. Bon, voilà, ça c'est les camarades et les expériences. Mais il y a les officiels, et les officiels quand même, trois épouses et six enfants. En août 55, il épouse une communiste forcenée, la péruvienne Hilda Gadea, il lui fait une fille. En 58, là c'est vraiment sans doute l'histoire d'amour la plus importante de sa vie, Aleida March, elle était très belle, hein, très belle. Une jeune institutrice révolutionnaire cubaine, elle a 23 ans, ils se rencontrent dans le maquis, alors évidemment, vous voyez, désinguer des soldats officiels cubains, ça crée des liens, alors c'est très exaltant. Ils rentrent ensemble triomphalement à la Havane et ils se marient dans la foulée. Elle va lui donner quatre enfants. Et enfin, le dernier mariage du Che, c'est en 63, avec une certaine Lydia Rosa Lopez. Et ils ont un fils, figurez-vous, qui s'appelle Omar Pérez Guevara, j'imagine, et qui est né le 19 mars 1964. Et tous ses enfants, d'ailleurs, vivent à Cuba. Est-ce que vous savez d'où ça vient le surnom de Che? Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Che Guevara? Vous avez déjà entendu dire ça? C'est à cause d'un tic de langage propre aux Argentins qui ponctue le début et la fin de chacune des phrases. Che. Alors, on l'a surnommé comme ça un peu pour se fiche de lui.
Ah oui, vraiment.
Ouais.
Donc, c'est une moquerie, en fait.
En fait, c'était une moquerie, oui. Ça vient d'un tic verbal. Bon, alors, Che Guevara, donc, de 3 femmes, 6 enfants, mais à peine est-il marié avec Leïda qu'il entreprend en juin de la même année une tournée en Europe, en Asie, en Afrique. Puis après, en 60, il va poursuivre ce tour du monde dans les pays communistes, en URSS, en Chine. Alors, inutile de vous dire qu'il n'est jamais là pour la naissance de ses enfants. Il n'a absolument pas le temps de s'occuper d'eux. Et la dernière fois qu'il voit les enfants qu'il avait eus avec Leïda, c'était en octobre 66. Il va s'envoler pour la Bolivie. Et il voit ses enfants pour la dernière fois dans une maison sécurisée à La Havane. On l'a grimé, on l'a rendu chauve, on lui a donné de la bedaine, on l'a vieilli artificiellement. Et donc la dernière fois que ses enfants l'ont vu, ils ont vu un vieillard de 60 ans, un vieil homme inconnu qui ne connaissait absolument pas. Et Che Guevara meurt un an plus tard, le 9 octobre 67, assassiné à 39 ans au fond d'un ravin par des soldats boliviens. En tout cas, aujourd'hui... encore, ce sont des femmes qui défendent sa mémoire bec et ongles, notamment sa fille Aleida, surtout pour que sa mémoire soit pas utilisée dans de la pub, parce que téléphone mobile en Suisse, vodka en Angleterre, soda en France.
Il y a eu plein de t-shirts aussi.
Il y a eu plein de t-shirts, mais il y a surtout, vous savez, la célèbre photo d'Alberto Korda, qu'on connaît tous, de Che Guevara avec son béret, elle a souvent été utilisée. Korda a gagné un procès contre Smirnoff qui avait utilisé cette image pour vendre sa vodka. Mais en tout cas, la plus active de tous ces enfants qui œuvrent à transmettre l'héritage de Che Guevara, c'est Aleida. Elle parcourt le monde pour défendre la mémoire de son père qu'elle a vu pour la dernière fois de sa vie alors qu'elle avait 7 ans. Et il leur avait laissé une lettre à ses enfants avec ce message: au moment où vous lirez ces lignes, je ne serai plus en vie. Soyez. Non, je parle plus espagnol. J'allais parler russe.
Vous étiez parti sur l'accent russe, là.
Non, je ne suis pas sûr. Pourquoi
c'est
je parle
Smirnoff, vous avez parlé de Smirnoff.
Oui, c'est à cause de Smirnoff, c'est ça. Soyez toujours capable de ressentir l'injustice commise contre quelqu'un, où qu'il se trouve dans le monde, c'est la plus belle des qualités d'un révolutionnaire. C'est grandiose comme message pour ses enfants. Oui. Et en tout cas, sa fille, elle a fait des études de médecine comme papa. Sa fille a complètement épousé les passions d'un père qu'elle n'a jamais connu, qui s'est sacrifié pour la révolution. Parce que si le Che a eu beaucoup de femmes autour de lui, la seule vraie femme de sa vie, c'était la révolution.
La révolution.
Sur ce, il faut que je travaille mon accent espagnol.
Il faut travailler un peu
Viva la révolution.
Viva la révolution. Tout de suite, El Quiz, comme on dit.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Deux cerveaux qui bouillonnent, pourtant l'un des deux s'apprête justement à boire le bouillon. Jouons à Bern-Tubiel. Stéphane, la première question est pour vous et elle est extrêmement facile puisqu'elle concerne Winston Churchill. 1931, le 13 décembre, Winston Churchill est en visite à Manhattan. En bon britannique, il ne regarde pas du bon côté avant de traverser. Il se fait renverser. Il profitera d'aller à l'hôpital pour se faire faire une ordonnance afin d'avoir sa dose d'alcool quotidienne. C'est la période de la prohibition. Vrai ou faux ?
Ah, ça c'est vraiment...
C'est une curiosité, oui, c'est pas une histoire, mais c'est amusant.
Oui, c'est un peu le principe du quiz, Stéphane.
Oui. C'est amusant. Il va peut-être à Manhattan.
Est-ce que 31, la prohibition dure encore?
Ah oui, ça a duré jusque...
Ça a duré combien de temps?
Oui. Là n'est pas la question, en fait.
N'est pas la question.
Non, vous remontez trop loin,
mais
la question. Il se fait renverser par une
voiture.
Ça,
c'est un fait historique.
Exactement. Vous me connaissez. Et ensuite à l'hôpital, il en profite pour demander une ordonnance d'alcool.
Il est pas Premier ministre en 31. Qu'est-ce qu'il a
Non, mais je vois pas ce que l'alcool ferait. Excusez-moi, c'est de l'alcool à 90.
Oui, on va pas lui prescrire d'alcool à 90 pour remplacer son whisky.
Je vois pas comment on peut avoir des ordonnances pour avoir un whisky.
On pouvait se procurer de l'alcool malgré la prohibition.
Non, je dirais
vous répondez.
Par l'ambassade, il y avait certainement.
Vous avez perdu.
Eh bien, l'histoire est pleine de surprises. Ouais. Figurez-vous que Winston Churchill a bien demandé au médecin de l'hôpital s'il pouvait pas avoir une prescription d'alcool. Et le plus fou, c'est que le docteur a accepté. Il précise sur l'ordonnance, qui existe encore aujourd'hui, que Winston doit avoir sa dose, surtout pendant les repas. Il est même notifié qu'il doit avoir minimum 25 centilitres par jour. Il n'est pas précisé s'il y a de l'alcool à 90 degrés.
J'ai appris quelque chose.
Vous vous coucherez moins bête, Stéphane.
Exactement.
Et moi aussi. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Restons avec Winston. Il a été le premier homme d'État à recevoir un prix Nobel de littérature. Vrai ou faux ?
J'essaie de réfléchir qui d'autre que lui aurait pu avoir un prix, un homme politique aurait pu avoir un prix Nobel de littérature. Il a été le premier homme d'État.
Oui, ouais. Premier homme d'État.
Oui, je dirais oui.
Vous oui, diriez oui.
C'est bien possible.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, c'est vrai, mais ça l'avait déçu, figurez-vous, car Winston Churchill visait plutôt le prix Nobel de la paix pour son action durant la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit donc le prix Nobel de littérature en 1953 pour ses mémoires de guerre. Dans la correspondance qu'il a laissée à l'époque à sa femme, il avoue quand même être heureux. Il dit « 12 100 livres reçus non imposables, c'est pas si mal ». Quoi ? Non, c'est quand même un peu au pognon. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Si vous ne le savez pas, Stéphane, je vous l'apprends. Un jour sur Mars, c'est 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Après tout, ce n'est pas de l'histoire, donc vous avez le droit de l'ignorer.
Combien d'heures, vous avez dit ?
24 heures.
24 heures.
39 minutes et 35 secondes.
Ah oui, il y a
39
minutes de plus. Que...
Exactement. Est-ce que depuis 1660, on sait qu'une journée martienne est égale à 24 heures, 39 minutes et 35 secondes ? Ou c'est plus récent ?
Donc il y a un type qui a regardé à la lunette le temps que mettait la révolution martienne.
Ben, vous avez bien passé votre temps à examiner l'arbre généalogique des
joueurs sur 10 générations. Donc il va passer 24 heures, 39 minutes et voilà. Allez, je vais dire oui, parce que j'aime jouer au poker.
Vous avez...
Il est redoutable au poker, il est redoutable dans le quiz. C'est une bonne réponse. 1659, Christian Huygens observe Mars et annonce que le jour fait 24 heures. L'année suivante, en 1660, Giovanni Cassini, astronome savoisien, affine le calcul à 24 heures et 40 minutes. Ça fait un petit moment qu'on lorgne donc cette planète. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Il n'y a pas qu'Elisabeth II qui aime les chiens, il y a aussi Michel Drucker, ainsi que la reine Victoria. À la mort de l'ancien garde-chasse de son époux, pour le remercier de s'être occupé de ses compagnons à quatre pattes, elle érige des bustes en son honneur dans tout le pays. Vrai ou faux ?
En l'honneur de son garde-chien ? Oui, pourquoi pas. Dans tout le pays, ça me paraît un petit peu excessif
dans
quand même.
Dans tout le pays, partout.
Partout,
partout sur chaque place. Dans chaque village, dans chaque hameau. Partout.
Non.
Vous avez... gagné.
Oh, c'est une bonne réponse, Clémentine, et c'est bien joué, vous avez gagné. Ça nous amène à l'égalité pour la question 5. Mais quelle était donc la réalité dans cette question que je vous posais ? Non, ce n'était pas pour s'être occupé de ces chiens que des bustes ont été érigés. John Brown, ancien garde-chasse du prince...
Il ne s'occupait pas que des
chiens. Il ne s'occupait pas que des chiens, il s'occupait aussi Stéphane Hitler.
Il lui donnait le whisky dont elle avait besoin.
Oui, c'était ce vieil écossais, là, c'est ça ? C'est pas lui ?
Elle a eu James Brown, qui était le vieil écossais qui lui parlait.
Elle a eu un indien aussi.
Et elle a eu un indien. Alors,
c'était John Brown, pas James Brown. Ah oui. Parce que James Brown, c'est moins connu de l'histoire.
Il remet le boule aussi très bien.
Et donc, pour finir cette histoire, le fameux John Brown, la légende dit que la reine Victoria s'est faite enterrer avec une mèche de cheveux.
Oui, elle était amoureuse de lui, non ?
Elle n'était pas amoureuse, mais...
Non, mais...
Mais vous savez...
ils avaient une relation un peu platonique.
Question numéro 5. Question de rapidité. Histoire de la vulcanologie.
Ah, ça on adore.
1974, le mont Edgecumbe, en Alaska, fume. Que va-t-il se passer ? Trois propositions. Il va tuer toute la population du village le plus proche. En même temps, il n'y avait que 7 habitants. Il ne va rien se passer, c'était le 1er avril et un type faisait brûler des pneus au sommet du mont. Jacques Brel, en apprenant la nouvelle, va écrire qu'on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
1. 3.
Je vous donne l'opportunité.
2.
Belle
victoire.
C'est quelqu'un qui a fait brûler des pneus au sommet.
C'était un poisson d'avril. Une centaine de pneus ont brûlé au sommet du mont Edgecumbe. C'est un ancien policier qui avait fait la blague
Stéphane.
Avec la complicité des autorités locales.
Mais les ménages, le travail des ménages.
Vous devez être épuisé, Stéphane.
J'ai épuisé la part cette quiz.
Moi, j'ai pas le temps de travailler comme vous, comme ça.
Mais non, merci quand même. Bravo quand même, Clémentine.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le saviez-vous, Stéphane, c'est en caressant ma chatte que j'ai eu l'idée de cette émission.
Oui, aujourd'hui on réunit trois personnages. Non mais j'en étais à votre chatte, vous avez une chatte.
Oui, elle s'appelle Miam.
Ah ouais, ouais. Aujourd'hui, en effet, on réunit trois personnages de l'histoire qui ne pouvaient pas vivre sans leur chat. Après le cardinal de Richelieu, je vous raconte le destin d'un autre accro au chat, l'écrivain et homme politique André Malraux.
Et de mon côté, je vous brosserai le portrait à 99% vrai d'une femme qui a dédié sa vie à ses chats. Elle s'appelle Linéa Latanzio, elle en a plus de 1000. Quel bordel.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures pour vous dégourdir les neurones sans négliger pour autant vos zygomatiques. En compagnie d'un sacré zigoto qui m'en fait voir des vertes et des pas mûres. Tiens.
L'expression « en voir des vertes et des pas mûres », d'où ça vient? Eh bien, au XIe siècle, sous le règne de Louis VI le Gros.
Stéphane, c'est fini, ça c'était la saison dernière, on est en saison 2 là.
C'est vrai,
mais ouais,
oui.
Maintenant la fin de l'émission, c'est la lutte finale, vous savez, le quiz que je remporte un jour sur deux.
Ah mais oui, autant pour moi, ou plutôt autant pour miaou. C'est le point commun de nos personnages du jour. On réunit trois personnages qui n'étaient jamais sans leur chat. Après le cardinal de Richelieu, je vous raconte la passion secrète d'André Malraux.
La pétanque.
Bah non, les chats.
Ah. Combien de chats, Malraux? 12. Petit joueur. Mon personnage à moi, ma chatwoman, en a plus de 1000 dans son mobilhome. C'est du très gros mobilhome. Elle est en quelque sorte une André Malraux qui a réussi. Je vous présenterai Linéa Latendieu.
Sans oublier nos chroniques, David Cassel-Lopez, avec le sens de la contradiction qu'on vous connaît,
oui.
Vous nous racontez les origines des chiens.
Bah oui, c'est-à-dire un animal quand même vastement supérieur aux chats à tous les niveaux. Et donc je vous savoir depuis quand ça existe les chiens. Voilà.
Puis il y a ceux, Stéphane, qui ont le sens de la contradiction, comme David, et puis ceux qui ont le sens du non-sens. C'est Olivier Poux qui nous parle aujourd'hui d'un thème en rapport avec les chats.
Les œufs, et notamment l'omelette. On pense qu'il n'y a rien de plus bête à faire qu'une omelette.
Mais
vous allez comprendre que c'est très difficile.
Une technique.
Et puis surtout, et ça permet de juger les cuisiniers.
Moi, je vais très bien.
Ah bon?
Oui, je vous inviterai.
Mais c'est vrai que vous avez des œufs extraordinaires.
J'ai les œufs de mes poules. Donc je connais chaque œuf.
Vous avez des œufs extraordinaires. Mais Olivier, c'est qui dit mais oui, bien sûr.
Ah bah, je suis très fier de mes poules.
Très fier de vos œufs. Et tout de suite, découvrons une facette inattendue de notre deuxième personnage du jour. Il était un homme politique qui aimait écrire et qui aimait ses chats aussi.
Bruno Le Maire.
Non, Stéphane, un autre, moins vivant. Il s'est intéressé à la condition humaine, à la corde et les souris aussi. Entre ici, Stéphane Bern pour nous raconter André Malraux, l'homme qui aimait les chats.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1976. André Malraux, âgé de 75 ans, reçoit chez lui Claudine Vernier-Palliez, la journaliste de l'Express. Claudine Vernier-Palliez, une journaliste de l'Express. La situation est inédite puisque la reporter n'est pas là pour rencontrer le célèbre écrivain, mais bien son chat qui répond au doux nom de Lustré qui ronronne sur ses genoux. Malraux s'exprime en son nom. « Mes chats m'ont demandé d'être leur interprète auprès de vous. C'est pour moi un grand honneur. Lustré est venu pour écouter et raconter notre conversation à son ami Fourrure qui est à la chasse. Quel culot tout de même de courir après les mulots alors qu'elle est gavée. » La journaliste demande « Elle ne les mange pas ?» Malraux répond « Elle m'en fait cadeau. Quand elle tire un mulot, elle miaule pendant 5 minutes afin que je la remercie de cet hommage. Puis, fuit, elle s'en va. Pour méditer, explique-t-il. Quand j'interrogeais le général de Gaulle sur sa foi, il répondait avec ce geste qui chez lui semblait chasser les mouches. Les chatons jouent, les chats méditent, conclut Malraux. Cet extrait d'interview en dit long sur le lien que l'écrivain André Malraux entretenait avec ses chats et le pouvoir politique à la fin de sa vie. Mais revenons aux origines. André Malraux, né le 3 novembre 1901, grandit à Bondy, en banlieue parisienne, au-dessus d'une petite épicerie tenue par sa mère et sa grand-mère. Il a 4 ans lorsque ses parents divorcent. Doucement, son père s'éloigne, refait sa vie et le jeune Malraux se réfugie dans les livres. La plupart des écrivains que je connais aiment leur enfance. « Je déteste la mienne », confiera-t-il plus tard. À la fin du lycée, il refuse de se présenter aux épreuves du baccalauréat. Direction Paris, où pour survivre, il met son talent d'érudit au service des bibliophiles. Malraux fait aussi paraître ses premiers articles dans des revues littéraires novatrices et rencontre l'avant-garde artistique de Jean Cocteau à Pablo Picasso. Le jeune homme se crée un personnage de dandy, cigarette au coin du bec, mèche en arrière et bagout étourdissant. En 1921, il épouse Clara Goldschmidt, jeune et intelligente héritière dont il dilapide rapidement la fortune. André part alors au Cambodge sous protectorat français en vue de prélever, pour ne pas dire piller, quelques statues khmères afin de les revendre à de riches Américains. Ce voyage lui vaut quelques ennuis avec la justice, mais surtout l'ouvre à la politique en lui faisant découvrir l'injustice du monde colonial. À son retour en France en 1924, Malraux se passionne pour le communisme. La guerre civile chinoise et les terribles massacres de jeunes militants du Parti communiste lui inspirent son roman « La condition humaine » pour lequel il obtient le prix Goncourt en 1933. L'espoir, son autre grande œuvre, voit le jour 4 ans plus tard, inspiré cette fois par sa propre participation à la guerre civile espagnole, aux côtés des Républicains. Après quelques mois de répit, Malraux est de nouveau sur le pied de guerre. La France entre en conflit avec l'Allemagne. Entré dans la résistance en 1944, André Malraux manque de se faire prendre alors qu'il est en mission, trahi par un chat qui s'obstine à le suivre.
Sa présence intriguait les Allemands qui ne m'avaient pas vu. Il a bien failli me faire prendre, explique-t-il dans une interview. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Malraux rencontre le général de Gaulle qui le nomme ministre de l'Information. Outre une intelligence et une énergie hors normes, les deux hommes ont en commun d'adorer les chats. Imaginez Malraux racontant l'une de ses plaisanteries préférées au général de Gaulle à la sortie d'un conseil. Au coin du feu se tiennent un vieil Anglais, sa femme et leur chat noir. Le chat fixe l'homme et lui dit « Ta femme te trompe ». L'Anglais, ulcéré, décroche son fusil et tue son épouse. Le chat s'éloigne et jette au veuf assassin. Au fait, j'ai menti. Avec de Gaulle toujours, Malraux réinvente l'histoire de France au profit des chats. L'écrivain développe une théorie très originale sur la bataille d'Azincourt en 1415, gagnée par les Anglais contre les Français. À cette époque, selon Malraux, l'Europe était parcourue par d'immenses bandes de rats. L'armée anglaise aurait eu l'idée pour s'en protéger de former des capitaineries de chats. Les rats seraient donc allés grignoter la corde des arcs français. Les soldats français combattant à Azincourt aurait donc été vaincu par des chats. Sous la Ve République, André Malraux est nommé ministre des Affaires culturelles. Il est notamment chargé de la préservation du patrimoine architectural français. Un comble, puisqu'il n'hésite pas à découper des chatières dans les portes historiques du château de Villemorin où il résiste. Il faut bien que ces chats fourrures, lustrés ou essuie-plumes puissent aller et venir à leur guise. Chez Malraux, les chats ont tous les droits. Fourrure le réveille la nuit, se couchant en rond sur sa tête ou faisant sa toilette dans un bruit d'enfer. Les chats de l'écrivain se permettent même de juger son travail. Quand ils viennent se coucher sur mes papiers, l'air goguenard, même s'ils trouvent que ce que j'écris est nul, je les balance avec considération, déclare-t-il. Des histoires de chats, Malraux en a à revendre. Il imagine ainsi une société secrète de chats d'écrivains. Ils se rencontrent à l'étranger, pas de club, pas de banquet, pas même d'académie. C'est pas le genre, déclare-t-il. Baudelaire disait que ces chats lui soufflaient des vers. On n'en était pas loin avec Malraux, qui se sent pousser des ailes sous le regard attentif de fourrures lustrées ou essuie-plumes. Nous pouvons imaginer l'écrivain à sa table de travail penché sur le manuscrit de ses anti-mémoires. Sur le bureau s'éparpille un stylo, une gomme, quelques feuillets et, étendu de tout son long, le chat essuie-plume qui veille à ce que son nom soit mentionné dans les mémoires de son maître. Je précise d'ailleurs que c'est le cas. Les chats, fidèles compagnons d'André Malraux, le réconfortent. Lorsqu'en novembre 1976, atteint d'un cancer de la peau, il vit ses derniers instants. Un hommage national lui est rendu dans la cour carrée du Louvre. Pour l'occasion, outre la présence du président de la République Valéry Giscard d'Estaing, la statue d'un félin égyptien est extraite des collections du musée pour veiller sur la mémoire d'André Malraux, éternel amoureux des chats. Si les chats ont 9 vies, lui n'en a eu qu'une, mais elle a été sacrement bien remplie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'André Malraux, nous sommes avec la biographe Sophie Doudet qui connaît tout de lui. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour Sophie Doudet, vous êtes maître de conférences en littérature française. Vous êtes aussi et surtout l'auteur de la biographie André Malraux parue chez Gallimard. De quoi le chat est-il le symbole chez Malraux? Il apporte d'une certaine manière de la douceur au personnage.
Il apporte, oui, un côté humain peut-être, parce que Malraux, surtout sur la deuxième partie de sa vie, quand il devient ministre, est peut-être un peu lointain, il est dans les médias, et c'est vrai que le voir en photo avec des chats en train de converser ou collectionner des chats en statue lui donne une dimension à la fois plus humaine, plus chaleureuse et un peu mystérieuse, parce que le chat est quand même un être indépendant et libre, ce qui est une sorte quand même de point commun avec l'écrivain.
Alors, il y avait beaucoup de chats dans la vie de Malraux, mais est-ce qu'on peut aussi rencontrer des chats dans ses romans, dans sa littérature?
Oui, on en a beaucoup. Alors, on en a dès les premiers écrits. Il a écrit un tout petit article qui s'appelle « Le bibliophile et le chat », où le bibliophile raconte qu'il adore les livres, les anciens livres, et le chat lui propose de faire des faux. Et cela avant l'épisode du Cambodge. et puis après, bon, il y en a dans la plupart des romans, vous avez cité aussi les anti-mémoires, mais c'est surtout dans La condition humaine, où le motif du chat apparaît dès les premières pages et va suivre comme une sorte de fil rouge, ou noir en l'occurrence, parce que c'est un chat noir dans tout le roman. Il va apparaître au gré des épisodes. Puis on le retrouve aussi dans L'Espoir. Il y a un moment donné où en fait il y a une attaque, il y a une flaque de sang, c'est le sang de gauche, et il y a un petit chat noir moussu, je cite, qui s'approche de la flaque de sang et qui joue un rôle de contrepoint par rapport à la violence de la guerre d'Espagne.
ses chats l'aident à écrire, le perturbent parfois, mais celle qui joue un rôle important dans sa littérature, c'est son épouse, Clara. Quel rôle a-t-elle joué dans la carrière littéraire de Malraux ?
Alors, elle a joué un très grand rôle, d'abord parce que elle est d'origine allemande et elle a lu la littérature allemande et elle va la faire découvrir à Malraux, donc elle va jouer un rôle d'initiatrice, peut-être pas de muse, mais en tout cas, elle va lui ouvrir des pans entiers de la culture dont il avait l'intuition, mais qui connaissait pas véritablement. Et puis surtout, elle croit en lui. Il va grandir dans son regard, dans une forme de confiance, et elle va l'aider à grandir, à sortir de l'adolescence, du côté un peu dandy, pour rentrer sur la voie à la fois de l'engagement, mais aussi de l'écriture. Il y a une relation qui est une relation à la fois d'engagement et d'incitation. Qui fait que Malraux rentre dans sa voie d'écrivain grâce à Clara, ou en tout cas en partie grâce à elle. Et en même temps, il va y avoir une sorte de concurrence, et parfois évidemment d'hostilité, puisque l'histoire va mal finir.
Le communisme, c'est au début, en tout cas, l'autre passion d'André Malraux pendant une partie de sa vie. Quels ont été ses engagements dans ce mouvement ? Est-ce que vous diriez que d'abord il a été un intellectuel, un activiste ?
Le point commun, c'est Clara. Clara est beaucoup plus militante que Malraux, qui est assez indifférent sur un plan politique, voire peut-être un petit peu conservateur, ou en tout cas, il est séduit par des gens comme Maurras au départ. Et elle va le mener vers la gauche. Alors, la révélation avec le communisme, c'est quand même l'épisode de la Cochinchine, enfin, de la NAM, quand il va au Cambodge. Il va être aussi aidé par un grand avocat qui est Paul Monin et qui est l'avocat des annamites. Et il va se tourner, en fait, vers la conscience politique. Et il va flirter avec le communisme. Après, il est clairement pas encarté. Il n'aura jamais sa carte au Parti communiste. Je dirais que c'est un compagnon de route et effectivement un militant, notamment dans les années 30, dans l'antifascisme.
Quand même, de compagnon de route du communisme au gaullisme, il y a quand même un sacré revirement idéologique. Comment vous l'expliquez ?
À mon avis, il y a deux épisodes. Le premier épisode, c'est la guerre d'Espagne, où effectivement, il est aux côtés des communistes, peut-être parfois un peu trop, mais il va se rendre compte aussi des purges de l'idéologie totalitaire stalinienne. Et progressivement, il va se rendre compte que si on ne peut pas se retourner contre les communistes pour des raisons de pragmatisme diplomatique à l'époque, les communistes sont les opposants principaux au nazisme, en revanche, il y a une forme d'autoritarisme, de purge, etc., qu'il ne peut pas ignorer. Cela d'autant plus qu'il a été proche des mouvements trotskistes. Donc ça, c'est la première chose, c'est la déception progressive qui est liée à l'échec de la guerre d'Espagne. Et puis, deuxièmement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va avoir une sorte de révélation, je dirais pas mystique, mais en tout cas politique, de la nation française, du peuple français. Il va être fait prisonnier et il va voir la France. Et il va basculer progressivement, assez lentement peut-être, on lui le reproche, vers le gaullisme. Donc, je dirais que tout simplement, il y a une prise de conscience du totalitarisme soviétique qui monte en puissance et qui se révèle avec la signature du pacte germano-soviétique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand l'URSS s'allie avec les nazis, on peut plus suivre les communistes. Il n'y a plus de cohérence, puisque c'était l'anti-nazisme qui, à mon avis, a mené Malraux du côté du communisme.
Et en dehors de la passion commune qu'ils avaient tous les deux pour les chats, quelle était la relation entre De Gaulle et Malraux, son ministre des Affaires culturelles ?
Alors, une relation de fascination de Malraux pour De Gaulle, indéniablement. On a parfois parlé d'une relation de fascination pour un père de substitution, une fascination pour l'histoire, pour le grand homme historique qui a dit non, qui a fait d'un rêve une réalité, qui était quand même la France libre. Donc je pense qu'il y a une fascination aussi pour le grand homme militaire. Il y a une fascination de l'écrivain pour l'art de la guerre qu'incarne De Gaulle. Alors après, est-ce que c'est réciproque ? Oui, indéniablement. Je suis pas absolument sûre que De Gaulle ait beaucoup admiré Malraux comme écrivain à titre personnel. C'est-à-dire, il cite pas La Condition humaine comme étant son livre préféré, mais clairement il y a une rencontre qui se fait entre deux images de la France et deux rêves de grandeur.
Alors Sophie Dunay, on a esquissé le parcours, l'itinéraire intellectuel de Malraux, du communisme au gaullisme. Il est surtout devenu homme politique. Dans votre livre, vous écrivez qu'il est passé des rangs de la révolte à ceux du pouvoir. Est-ce qu'il a déçu toute une génération, en tout cas une partie de cette génération aussi, Malraux ?
Oui, indéniablement. Celui qui avait été le héros de l'antifascisme, celui qui monte l'escadrille espagnole en Espagne, celui qui est le révolté, celui qui dédicace la condition humaine aux jeunes Chinois qui sont morts brûlés jouer dans les locomotives, devient celui qui est séduit par le pouvoir, qui est séduit aussi par le gaullisme, par la politique, puisqu'il a été quand même aussi un grand orateur hein, du parti de Gaulle. Effectivement, il a déclenché une certaine forme d'hostilité de la part de communistes, de la part aussi de toute la mouvance autour de Jean-Paul Sartre au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps aussi, il avait des amis chers et il a eu des soutiens dans son travail de ministre qui était assez exceptionnel.
Enfin, rappelons que la loi Malraux a quand même sauvé pas mal de vieux monuments dans le cœur de Paris, tout le marais qu'on allait détruire notamment. En tout cas, merci Sophie Doudet. Votre biographie sur André Malraux est publiée chez Gallimard. Je précise que vous serez aujourd'hui et demain au rendez-vous de l'histoire à Blois. Et j'en profite pour annoncer votre dernier livre, Le Duel des génies, quand Michel-Ange défie Léonard de Vinci, paru aux éditions Scrinéo.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui adoraient les chats. Après le cardinal de Richelieu et André Malraux, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'une femme plus proche de nous qui détient un record.
Ce troisième personnage, Stéphane, c'est d'abord l'histoire d'une déception, d'un ascenseur émotionnel pour David et moi. En effet, son nom de Plymouth californienne siliconée éveillait déjà en nous une curiosité malsaine, Linnea Latanzio. Nous étions déjà tout tendus vers l'objectif de mieux la connaître, et quand j'ai vu apparaître la première occurrence la concernant sur Google, un portrait intitulé, je cite, « Linnea Latanzio, la reine des chattes », je me suis dit, voilà un portrait qui va plus intéresser Stéphane que celui de Richelieu. Bref, nous étions chauds, nous attendions ce moment avec impatience.
Avec nos tétons doucement pointus.
Oui, hélas, nos tétons ont vite repris leur position repos quand on a compris que si la presse avait surnommé Linnea reine des chattes, ce n'était pas qu'elle avait supervisé des milliers de castings pour Jackie et Michel, mais tout simplement qu'elle possédait beaucoup de chats et de chattes. Non, ne baillez pas Stéphane, c'est intéressant aussi. Linnea Latanzio est au chat exactement l'inverse de David Castello-Lopez. Linnea, c'est par exemple quelqu'un qui serait incapable de dire
« Si jamais je dois découper un chat, t'imagines ? Galère sans couteau !»
Il y a une expression très courante aux États-Unis pour se décrire en tant qu'amateur de chat, c'est « You know what ? I'm a cat person ». Linnea, elle n'est pas une cat person, elle est une cat psycho. Elle en a non pas 10, non pas 100, non pas 200, non pas 300, mais plus de 1000.
Elle est positivement folle.
Non, elle est positivement américaine, Stéphane. Quand les Américains se passionnent pour quelque chose, ils voient grand. Ça fait près de 20 ans que Linnea milite contre l'enfermement en cage et l'euthanasie des chats errants qu'elle accueille chez elle à bras ouverts. Ses colocs, 1100 chats. Ses fringues, des poils. Durée de vie de son sapin de Noël, 13 secondes. Vie sexuelle, quelle vie sexuelle. Tout commence au début des années 90 où Linnea Latanzio vit dans un épisode de Desperate Housewives. Son destin est écrit, fortune, SUV Mercedes, ice latte soja to go au Starbucks, injection d'acide hyaluronique à l'apparition de sa ride du lion, et bien sûr une armée d'employés philippins et portoricains sous-payés pour lui masser les pieds entre deux séances de shopping, employés auxquels elle répond lorsqu'il lui demande une augmentation. Mais en 1992, Linnea et son mari divorcent. Deux choix s'offrent alors à elle, dilapider la fortune de son enfoiré d'ex dans le latte soja et la haute joaillerie, ou la consacrer au chat abandonné. Stéphane, vous auriez fait quoi, vous, à sa place?
J'aurais hésité.
Non, vous auriez hésité. Ah, moi, perso, j'aurais certainement pas adopté le chat, un poisson rouge à la limite. Linnea, elle opte pour cette deuxième option. Un concours de circonstances, en fait. Peu après son divorce, voilà que son père meurt, électrocuté alors qu'il bricolait dans son garage.
Alexandra.
Dévastée par la mort de son père et plus encore certainement d'apprendre qu'il était fan de Claude François, le double effet qui se coule, Linnea récupère les deux chats de son papa pour les refourguer à un refuge type SPA. Mais voilà, une fois arrivée au refuge, devant la mignonnerie de ces adorables boules de poils dont on ne pense jamais au moment de les acheter que dans quelques jours ils vomiront partout sur la moquette, elle fond. Au lieu de repartir les mains vides, elle revient avec 15 chatons. De là, c'est l'escalade du poil. En quelques mois, avec 96 chats chez elle, elle bat déjà le record du plus grand nombre de chats possédés. Fascinante psychologie humaine, voici une femme qui aurait pu choisir de mener une vie confortable dans sa propriété de 5 hectares, surplombant la Kings River, en sirotant chaque soir un petit pinot noir. Mais non, elle préfère consacrer ses 391 mètres carrés, comprenant 5 chambres, une piste de danse, une bibliothèque et une piscine, à ses chats, qui passent rapidement de 96 à 200, puis 500. C'est là qu'on entre dans le dur du n'importe quoi, puisque non contente de les accueillir, Linnea va entièrement reconfigurer la maison pour ses chats. Elle commence par vendre tous ses biens matériels, tous ses bijoux, tous ses meubles de valeur. Tout est réinvesti dans des arbres à chats dernier cri. 800 chats adultes, 300 chatons squattent désormais les 5 pièces de sa maison et le terrain qui l'entoure. Et elle, eh bien, assez logiquement, Linnea commence à trouver qu'elle dérange. Elle est de trop dans cette maison. Vous la voyez venir, mon histoire du mobile home que je vous vendais tout à l'heure dans le sommaire?
Ah bah
Linnea, elle se sentait envahissante pour ses chats, alors elle leur a laissé la maison et elle est allée habiter dans un mobilhome qu'elle a installé au fond du jardin. Une décision, comment dire ?
Pas très fut-fut.
C'est ça, c'est cinglant, mais c'est ça. Alors, les chats, eux, vivent leur meilleure vie, hein, forcément, foutent le bordel dans la maison, se font chouchouter par une armada de 45 employés. Les tétés commencent à 4h du matin. Chaque semaine doivent être distribués et répartis 1400 kg de croquettes, 600 kg de litière. Linéa trouve ça formidable. Et en tout cas, le refuge géant de Linéa tourne bien, grâce en partie aux dons. Et puis, comme elle le dit, lorsqu'il faut, eh ben, je vends mes bijoux. J'ai même vendu ma bague de fiançailles. Oh, plus rien ne nous étonne avec toi, Linéa, tu donnerais un rein pour un persan. On l'a bien compris. En attendant, si vous souhaitez faire une bonne action et gâter votre entourage, sachez que pour renflouer les caisses de la baraque à chats, de sublimes bougies chats sont en vente sur sa page Facebook, ainsi qu'un calendrier. Ça peut vous changer de Clara Morgan, David. Conclusion, aimer les animaux, s'en entourer, c'est formidable tant que ça ne devient pas une obsession et que ça ne vous coupe pas de toute vie sociale. J'ai un ami comme ça qui vit dans le Perche, entouré de ses chiens, et la solitude entraînant souvent l'alcoolisme, j'ai peur que dans quelques années, il finisse comme ça.
Argentina, the truth.
Je vous imagine. Côté de la cheminée, avec un petit engrais comme ça, vos chiens.
Je crois que vous me voyez, en alcoolique.
Oui, aussi.
Parce que je bois très peu d'alcool.
C'est vrai, vous en buvez très peu. Mais vous partez très vite, on va dire.
Oui, c'est ça. En fait, j'essayais de chanter, c'était très différent dans l'extrait que vous avez diffusé. Merci Mathieu, c'est très convaincant.
C'était 100% vrai. Hein.
C'est incroyable.
C'est affreux, elle vit dans le mobilhome alors qu'elle avait tout ce pognon. Oui. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, avec tout ça?
Non, c'est-à-dire que je trouve que c'est admirable, mais en même temps, quand ça devient une obsession, que ça devient, ça confine au ridicule. Alors, qui sommes-nous pour juger?
Oui, vous avez raison. Vous avez raison.
Après tout, chacun trouve le bonheur là où il peut. Le tout, c'est de réussir sa vie.
Merci Aristote.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire miaou à nos personnages du jour.
Miaou.
Pour retrouver deux chroniqueurs qu'il vaut mieux brosser dans le sens du poil.
Oh oui, surtout Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, Olivier,
nous allons parler des œufs et des omelettes.
Hein, d'où vient l'omelette? Je pense qu'elle vient du Moyen-Âge.
Pas mal.
Pas mal. Ah, j'ai une bonne idée.
Mais tout de suite, évidemment, David Castel-Lopez, qui on reste dans le sens du poil avec les chiens.
Exactement. Moi, je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens. Parce que les chiens, c'est vraiment des êtres qui sont, ils sont génétiquement sympas. Voyez, ils sont contents quand il faut être content. Ils sont loyaux, ils sont résistants. Et au fond, ils se plaignent que d'une chose, les chiens, c'est que vous les laissiez pas vous montrer à quel point ils vous aiment. C'est vraiment le seul truc dont ils se plaignent. Et franchement, je vais le dire, aimer une telle perfection d'être vivant, c'est un truc de connard. Voilà. Il y a une toute petite limite pour moi, je dirais. Ce sont les gens qui aiment les chiens qui ont le pouvoir de tuer. Genre les pitbulls. Ça, c'est pas normal parce que se promener avec un pitbull, c'est comme se promener avec un bazooka. Le bazooka en lui-même, il est pas méchant. Mais quelqu'un qui a un bazooka dans la rue, vous vous dites, il y a un problème avec cette personne. Et c'est un petit peu le même principe avec le pitbull. Bon, il y a un truc paradoxal avec le chien, c'est que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais tous les chiens descendent du loup, et le loup, c'est peut-être, originellement en tout cas, un des pires ennemis de l'homme. Donc la question, c'est comment est-ce qu'un animal féroce, le loup qui voulait nous manger, s'est transformé en teckel de Stéphane Bern? Alors pour le savoir, il faut revenir 100 000 ans en arrière. Il y a 100 000 ans, on était, nous les hommes, en concurrence directe avec les loups. On chassait un peu de la même manière, en groupe organisé. On courait après les proies, tout ça. Et régulièrement, les hommes se faisaient manger parce que les loups étaient quand même des créatures à la fois puissantes et agressives. Mais ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y avait certains loups qui, par une sorte d'anomalie génétique, étaient moins agressifs que les autres, plus sympas que les autres loups. Et ces loups, ils s'approchaient sans trop de problèmes des humains. Et ils pouvaient donc manger les restes, les os, les morceaux de viande laissés, peut-être même que les hommes leur en lançaient quelques-uns comme ça. Et les loups qui faisaient ça, qui étaient donc un petit peu plus sympas que les autres, ils ont bien survécu, puisqu'ils ont eu de la nourriture assez facile de la part des hommes. Et donc, ils ont eu plein de bébés loups auxquels ils ont transmis leur caractère doux et sympa. Et parmi ces bébés loups et sympas, les hommes, ils choisissaient encore les plus sympas. Et aussi ceux qui avaient peut-être des dents un tout petit peu moins longues, vous voyez, pour un peu moins les mordre. Et ça, en quelques dizaines de milliers d'années, ça a fini par donner des sortes de proto-chiens. Vous voyez, un animal entre le loup et le chien. Et puis, petit à petit, les humains, ils ont commencé à sélectionner les chiens qui avaient certaines caractéristiques spécifiques pour les utiliser pour des tâches précises. Des proto-chiens un peu plus courts sur pattes pour mordre les pieds des brebis et les faire revenir au troupeau. Des petits chiens allongés qui puissent entrer dans des terriers pour en débusquer les rongeurs. Et ça a peut-être donné les teckels. Et des chiens super musclés et puissants pour monter la garde. Il s'est passé des milliers d'années comme ça. Et puis est venu le 19e siècle, hein, un siècle un petit peu chelou quand même, avec ses concours de beauté pour chiens. C'est là que c'est né, les concours de beauté pour chiens. Et à partir de là, non seulement on a codifié les races existantes, mais on a créé de nouvelles races juste parce qu'on trouvait, on les trouvait jolies. C'était pas pour faire quelque chose, c'était juste parce que qu'on les trouvait jolies. Le Boston Terrier, par exemple, c'est une création parce que, ah, regardez, quand on croise ça et ça, ça fait un joli chien qui a une jolie gueule. Hop, on fait ce chien-là. Bon, il y a un aspect un peu triste à ça parce que, des fois, c'est pas super de jouer avec la génétique des animaux. Les carlins, par exemple, vous voyez ce que c'est un carlin, oui, c'est un petit chien brun avec la tête toute écrasée. Oui. Bah, par exemple, c'est
pug en anglais.
Oui, pug, exactement. C'est des chiens qui ont une sorte de laideur assez attendrissante.
Oh, c'est charmant.
Et elle attendrit vraiment beaucoup de gens. Mm. Et ben, le truc dont on se rend compte, c'est que leur visage est de moins en moins fonctionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens, ils aiment beaucoup quand les traits des carlins, ils sont vraiment exagérés, quand ils ont les yeux très exorbités et un visage de plus en plus écrasé. Et ils les sélectionnent pour ça. Et résultat, les carlins, ils ont de plus en plus de problèmes de respiration.
Oh non,
il y a les deux tiers des carlins qui respirent comme ça. Et c'est horrible.
Ça fait
un
bruit dingue.
Oui, c'est
vous en avez vu, Stéphane?
Et c'est
non,
pas
mais
bon pour leur santé.
Le duc et la duchesse de Windsor avaient des carlins.
Avaient des pugs.
Très bruyants.
Mais comme je l'ai dit, quand même, dans l'ensemble, les chiens, ce sont vraiment des gens super. Et c'est même des gens encore plus super qu'on croit. Parce que, il y a quelque chose que j'ai pas dit à leur propos. Il y a un chercheur à l'université de Bretagne qui a fait une expérience en 2007. Il a demandé à un type, beau gosse, d'aborder des filles dans la rue pour leur demander leur numéro de téléphone avec toujours la même phrase, hein, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, je vous trouve joli. La moitié des fois, le monsieur beau gosse, il avait un chien en laisse et l'autre moitié, il n'avait pas de chien. Quand il n'avait pas de chien, il n'y a que 9% des filles qui lui ont donné leur numéro, ce qui est déjà pas mal.
Hein, parce qu'il devait être beau gosse.
Qui montre que le type était vraiment beau gosse. Et avec le chien, devinez combien?
60%.
Non, mais 42.
Vous exagérez tous les deux, mais c'est
20%.
28%.
Ouais, c'est beau.
28%, trois fois plus que quand il avait pas de chien. Et donc, en 100 000 ans, on est donc passé d'un animal qui veut vous tuer à un animal qui vous aide à vous reproduire. C'est quand même,
J'ai une question. Comment le chien qui bouffait les brebis en est arrivé à les garder?
C'est que des sélections naturelles. C'est genre, on a pris le petit chien qui peut-être mangeait un petit peu moins les brebis, qui était un petit peu plus obéissant, un petit peu plus doux, qui disait un petit peu plus ce qu'on lui faisait faire. Puis comme celui-ci a mieux survécu que les autres chiens, eh ben, du coup, comme ça, on a pu les sélectionner.
En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site Europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui pense aussi à vos papilles. Continue avec Olivier Pouls. Chaque jour, Olivier, l'histoire d'une recette. Et aujourd'hui, comme vous n'avez pas trouvé de recette à base de chat, bon, en tout cas, vous n'avez pas voulu les partager avec nous, vous nous parlez des œufs et d'une recette qu'on adore tous, c'est l'omelette.
Bien sûr, mais vous savez que dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui, évidemment, on consomme du chat et du chien. C'est tout à fait culturel dans un certain nombre de pays. Ça ne l'est pas chez nous. Nous, effectivement, on est plutôt volaille et œuf. Alors évidemment, qui de la poule ou de l'œuf? On va pas refaire cette éternelle question, parce que de toute façon, on n'a pas la réponse. Mais ce qu'on sait, c'est que l'homme a domestiqué ce volatile, en tout cas les poulets, les poules et les coqs, depuis environ 6000 ans. Et c'est probablement du côté de la Chine et de l'Inde qu'ils ont commencé les premier à s'y intéresser. L'homme a toujours mangé des œufs en réalité, alors habituellement il les gobait, il allait chercher les œufs dans les nids et ce qu'il pouvait trouver et il les consommait. Mais très longtemps, cette consommation d'œufs, en fait, a été quelque chose d'un peu marginal. Et les premières recettes qui sont vraiment à base d'œufs, mais qui sont pas des omelettes telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça date d'il y a à peu près 2000 ans, et notamment du côté de d'un certain Lucullus, qui était un général romain, également gastronome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui faisait une recette d'œufs battus avec du miel et cuit dans un plat d'argile.
Du miel, c'est un dessert.
Avec du miel. Bah, c'était... à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de notion de dessert, d'entrée, on mangeait ce qu'il y avait.
Oui.
Non, il n'y avait pas le menu en 8 plats avec les mises en bouche. Non,
surtout le sucre, ce n'était pas forcément un truc de...
Non, ce n'était pas forcément quelque chose de dessert. Et en fait, l'omelette, ensuite, et l'œuf, il y en a très peu de traces de consommation jusqu'au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y avait des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on préférait attendre que l'œuf devienne une poule, c'était beaucoup plus rentable plutôt que de les manger. Et ensuite, il y avait aussi des questions religieuses autour de la consommation. consommation de l'œuf qui n'était pas acceptée, puisque notamment quand il fallait faire maigre, on ne pouvait pas manger d'œufs non plus, d'où la création des œufs de Pâques, etc. On y reviendra peut-être une autre fois. Mais vraiment, c'est à partir du 15e siècle, et donc la fin du Moyen-Âge, vous aviez raison tout à l'heure, qu'on voit apparaître l'omelette, et probablement l'idée de l'omelette telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est liée à une autre invention, c'est celle de la poêle à frire.
Ah bah oui,
puisqu'auparavant, c'est évidemment très compliqué. Mais si une omelette, ça paraît ce qu'il y a de plus simple et de plus, bah oui, plus banal.
Des œufs battus.
Bah oui, mais en réalité, c'est beaucoup plus technique qu'il ne peut y paraître. Et par exemple, vous savez que il y a une légende qui dit, mais je pense qu'elle est vraie, que le grand chef Paul Bocuse, Monsieur Paul, faisait passer à tous les candidats qui voulaient rentrer dans sa cuisine le test de l'omelette. Il leur donnait des œufs, une poêle, et leur disait. Faites-moi une omelette. Si elle n'était pas réussie, dehors, messieurs, on va continuer sans vous. Donc vraiment, il y a besoin d'une technique, et je vais vous donner dans quelques instants les trucs pour réussir une omelette. Sachez aussi que je pense que lors du dernier concours du meilleur ouvrier de France, l'omelette faisait partie des épreuves de qualification. C'est donc vous dire que vraiment, c'est plus simple, c'est plus compliqué que simplement casser des œufs et les mettre dans une poêle. Alors, quels sont les secrets d'une bonne omelette? D'abord, les œufs. Pourquoi pas les bons œufs du jardin de Stéphane, hein, qui sont des œufs totalement bio avec des poules qui se nourrissent de plein de choses avec des jaunes très jaunes.
Pour gambader les poules.
Exactement. Maintenant, c'est pas 12 œufs par personne, hein, c'est 2 ou 3 évidemment. Il faut bien les battre.
Quand même, 3. Trois, 4 quand même.
Bon. Bien les battre à la fourchette pour très bien amalgamer le blanc et le jaune. Ensuite, une poêle avec un petit peu de matière grasse. La poêle chaude, mais pas trop chaude, parce qu'il faut surtout pas qu'au moment où l'œuf rentre en contact, qu'il coagule tout de suite. Il faut pas. Et surtout, il faut qu'une omelette reste assez blanche. Elle ne doit pas griller. Elle doit avoir une belle couleur uniforme. Alors, ce que vous allez faire en un premier temps, c'est ramener avec votre fourchette de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, une fois que l'omelette va bien commencer à coaguler, mais qu'elle reste encore un petit peu baveuse sur le dessus, il y a un geste qui est technique, mais qui est très important, c'est que vous allez pencher la poêle, et puis, tac, d'un petit coup de poignet, rabattre une partie de l'omelette sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la rouler. Et là, vous la faites glisser dans l'assiette. Elle doit être d'une couleur très homogène. Le cœur doit évidemment rester un petit peu moelleux et surtout pas trop sèche. Voilà, ça c'est les trucs. On peut rajouter un petit peu de persil.
Mais le fromage, vous le mettez à quel moment?
Ben ça, vous le mettez à partir du moment
mais
où vous
le mettez avant la cuisson, non, le fromage, ou après, ou au moment de la cuisson?
Non, au moment de la cuisson, parce que si vous mettez votre fromage avant, il va commencer à fondre et puis il risque de croûter et ça va plus fonctionner bien. Il faut d'abord commencer à mettre les œufs, ensuite on met le fromage et on termine en la roulant.
On Merci. Termine en fanfare. Merci Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est Stéphane, le grand moment que nos auditeurs attendent tous, c'est la lutte finale.
Oui, c'est un quiz où tous les coups sont permis. Et ils vous opposent tous les trois, messieurs, sur des questions d'histoire. C'est une dure lutte et
vous avez l'air perdu dans ce quiz, Stéphane.
Non, pas du tout, pas du tout. J'essayais de faire passer la contre-pétrie, mais je suis pas sûr que ça passe bien. Alors Olivier, je commence avec vous. En France, au XXe siècle, on a connu des sénateurs élus à vie. Vrai ou faux?
Des sénateurs élus à vie, c'est tout à fait possible que dans les précédentes républiques, peut-être qu'il y avait des sénateurs à vie. Oui, c'est possible, je dirais oui.
Absolument. Oui, sous la Troisième République, il y avait des sénateurs inamovibles. Alors la loi a abrogé cela au XIXe siècle, hein, en 1884, mais ceux qui étaient en place ont conservé leurs privilèges. Émile de Marsère a été le dernier, il est mort en 1918. David ?
Oui.
Abraham Lincoln était un excellent lutteur. Vrai ou faux ?
Ne cherche pas dans mes yeux la réponse.
Il faisait un truc, mais je sais plus ce que c'était.
Mais on a déjà eu une question dans ce coup-là.
Oui, mais pas...
Un ancien président des États-Unis.
Oui, J'ai envie de dire non. Oh non, c'était un excellent lutteur.
Il a pratiqué de 9 à 21 ans. À son époque, la lutte ressemblait plus à du combat de rue qu'autre chose, mais la légende dit qu'il a donné 300 combats sans aucune défaite.
Ce qui est fou, parce qu'en plus, il était très grand.
Oui.
Et donc, pour un lutteur...
C'est pas bien ça, parce que son sort de gravité est très
ouf. Alors là, la question la plus facile, elle est pour Mathieu.
Je vous remercie.
Comme d'habitude.
Après la Révolution française, la France a eu 3 rois. Vrai ou faux?
Après la Révolution française, je suis capable de me tromper. Après la Révolution française, il y a un piège. Bah, si vous faites ce sourire, c'est qu'il y a un piège.
Non, il n'y a pas de piège, mais...
Mais il faut savoir.
Il y aurait pu y en avoir un, mais oui. En fait, il n'y en a pas.
Bah, je vais dire vrai.
La France a eu trois rois, on ne dit pas il y a eu trois rois de France.
La France a eu trois rois.
Voilà, ouais. Si on avait dit la France, et s'il y a eu trois rois de France, là, il y avait un piège. Oui. Non, il y a eu deux rois de France. Mais un roi des Français. Donc trois rois, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe.
Et Louis-Philippe, il n'était pas roi de France, c'était roi des Français.
Non, roi des Français, puisque c'était par la volonté du peuple.
Oui.
Alors, qui a donné bon, Olivier et Mathieu, une question qui vous départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Du 5 janvier 1933 au 26 mai 1937 a été construit à San Francisco le fameux pont du Golden Gate. Si je saute du pont sachant que je vais faire une chute de 67 mètres, au bout de combien de temps je vais toucher l'eau ?
Quoi ?
En secondes ?
Oui. Alors Olivier, combien de secondes pour
3
vous ?
3 secondes 6.
3 secondes 6 et vous Mathieu ?
4 secondes.
4 secondes. Et bien c'est vous Mathieu qui vous dites. C'est exactement 4 secondes.
C'est exactement 4 secondes. Et oui, mais ça faisait.
Vous le saviez, vous
Mais non, mais il faut être bon en maths. Vous savez que la chute d'un corps, la vitesse, ça peut pas. Non, en fait, j'ai pensé bêtement, ça n'a rien à voir, j'ai pensé aux 100 mètres du Usain Bolt. Je me suis dit, en 9 secondes, il court. Et si on tombe, on doit aller encore plus vite que ça, mais genre beaucoup plus vite, parce qu'on accélère beaucoup à la moitié de la chute. Alors je dis 4 secondes complètement au hasard. Mais j'ai gagné, et c'est ça qui compte, c'est ça que l'histoire retiendra. Bravo quand même aux autres concurrents.
Putain, j'ai pas gagné depuis le mois d'août.
Mais non. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui n'étaient jamais sans leur chat. Vous, Stéphane, vous, on le sait, vous n'êtes jamais sans vos chiens. Rappelez-nous les marques, comme dirait David.
Ce sont des teckels à poil dur.
Allez, vous avez repris un teckel à poil dur.
Oui,
oui. Vous ne croyez qu'en cette...
Non, parce que j'ai aussi vie avec moi un pitcher nain.
Oui. Et pourquoi on ne le connaît pas celui-là ? Vous le cachez ?
Parce qu'il n'est pas vraiment à moi. Vous
dites. Ah, il n'est pas vraiment à... Oui, d'accord, je comprends. Mais vous vivez avec, nous avons compris le message. Demain, Stéphane, mon petit doigt me dit que ça finira mal pour nos personnages.
Oui, c'est fou ça. Demain, on réunit trois personnages qui ont fini à l'asile. Le peintre Vincent Van Gogh, l'acteur et poète Antonin Artaud.
Et Trump.
Il est à l'asile, ça y est.
Et non, son fils, Baron Trump, va intégrer une école au passé controversé que son ancien directeur a surnommé l'asile. Je vous raconte tout ça demain. À demain, Stéphane.
À demain, Mathieu. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.